comme vous voulez.
Ravi de vous retrouver dans votre émission Cinéconon de l'association Profil pour la dernière de l'année 2023. Ça fait tout drôle. Claude, Ariel, bonjour à tous les deux. J'espère que vous allez bien cette fin d'année où les casques marchent petit. Du coup, on n'avait pas trop de retour.
Dans l'essentiel,
mais on augmentera les volumes. Ouais. Le plus important, c'est que l'on nous entende.
Oui.
C'est vrai.
On est entre nous. Exactement. On t'entend, toi, c'est le principal. Ah.
On s'entend bien, j'ai l'impression.
On s'entend très bien.
Non, c'est le plus important.
Tu as bien entendu jusqu'à présent. Est-ce il n'y a pas de raison que ça continue.
Ah, ça, moi, ça marche.
Ah, effectivement, on a un très bon retour pour notre cher Alix.
Mais vous,
c'est
peut-être...
le petit ajustement de fin d'année.
C'est
on est comme ça.
C'est un pondérable de la vie authentique, comme on
avec,
dit.
Avec nos fameux directs, la fameuse émission Cinécanon de l'association Profil en direct. Et comme je le disais, on se mardi 19 décembre. C'est la dernière de l'année 2023. C'est un petit peu aussi une dernière pour moi. Après, je laisse la main à Alix, que vous découvrez, que vous connaissez déjà des matinales.
Et oui.
Et qui va prêter sa voix tout au long de cette saison 2023-2024 pour vous accompagner. Avec deux beaux films aujourd'hui, on peut déjà les présenter un petit peu. Il y a Perfect Days qui arrive dans quelques instants. Le temps d'aimer également. Qu'est-ce qui nous attend? Les filles vont bien. Ça, c'est un peu plus tard. Et avant ça, il y aura Fremont.
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 On a dit. C'est yes.
Yes.
Fremont.
Fremont.
Yeah. Je révise d'anglais. Je suis très heureux. C'est ça. Fremont. Comme ça se dirait en anglais, peut-être au state, comme tu le dis, Alix.
Non, parce qu'il est, américain, enfin il est états-unien ce film. C'est
ouais. Et je crois que tu aurais le perfect accent pour nous parler du premier film.
Peut-être.
Qui s'appelle
Perfect Day. Mais là, du coup, c'est un film donc sorti en 2023. Mm-hmm. C'est un drame. Mm-hmm. Qui a le réalisateur, c'est Wim Wenders. Mm-hmm. Et c'est un film germano-japonais.
Fini. Vas-y.
C'est pour introduire. C'est pour
j'introduis
introduire.
Le film.
Pour introduire, on écoute là.
Ah, d'accord. Oui.
C'est pour introduire.
J'ai introduit le film. Allons-y. Hiramaya travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo et semble se satisfaire d'une vie simple. En dehors de sa routine quotidienne très structurée, il s'adonne à sa passion pour la musique et les livres. Il aime les arbres et les prend en photo. Une série de rencontres inattendues révèle peu à peu son passé. Une réflexion profondément émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le monde quotidien qui nous entoure.
C'est fort.
Magnifique. En plus, je crois que c'est un prix du jury communique et prix d'interprétation masculine pour l'acteur principal Koji Yakusho. On va laisser encore un petit peu de suspense.
Tout à fait. Bah oui, tu l'as très bien lu.
On
va partir.
Non, je rigole. Je sais pas, j'ai fait japonais de ma vie.
Très de suspense, j'ai envie de me dire, autant écouter la bande-annonce. Notre cher monsieur Adrien, qui nous accompagne en technique aujourd'hui, rentre dans les locaux.
Adrien, il a l'air tellement tourmenté.
On va lancer cette première bande-annonce qui s'appelle Perfect Days. Donc, comme Alix nous a très bien parlé, Perfect Days, et on en reparle juste après. À tout de suite.
Just a perfect day. Drink sangria in the park.
Hirayama-san-te, kekkon shite nai desu yo ne? Kabishiku nai desu ka?
Start we go home.
Utsukare-san!
Oji-san.
Ooki natta ne.
Mama to oji-san te zenzen nite nai ne.
Bonjour Ariel, alors du coup vous allez nous parler de ce film que nous vient d'entendre la bande-annonce, Perfect Days. Je vous laisse.
Donc tu as un peu parlé du scénario, donc c'est très bien. Moi, je vais juste introduire Wim Wenders, donc qui est allemand, qui est donc quand même un cinéaste très important du 20e siècle et du 21e, puisqu'il est né en 1945 en Allemagne, donc il a 78 ans. Il est réalisateur, scénariste, producteur et photographe. Il a réalisé 25 longs métrages et 12 documentaires. dans les longs métrages, il y a la trilogie des road movies dans les années 70, 75, 76. Mmh. Alice dans les villes, Faux mouvement au fil du temps. Et donc c'est en 77 avec l'ami américain qu'il a été surtout connu sur la scène internationale. Ça fait à peu près 10 ans qu'il avait arrêté de faire des films de fiction. Il s'était plutôt consacré aux documentaires et il en a fait de très connus, comme Buena Vista Social Club dans les années 99. Donc c'est un grand amateur de musique, hein, ouais. Et d'art, puisqu'il a fait aussi un documentaire sur Pina, la danseuse Pina Bausch, et Le sel de la terre sur le photographe Sebastião Salgado. Et le dernier, Anselme, qui est sorti en 2023, en même temps que Perfect Days, sur l'artiste Anselme Kiefer, qui est un Allemand aussi né en 1945 comme lui, et ils ont beaucoup de choses en commun, et qui est magnifique. Et en 1984, il avait déjà fait un documentaire aussi sur Ozu, le réalisateur japonais, Tokyo Ga, et c'est là qu'il avait fait la connaissance du Japon. Et il a même fait un film sur le pape François en 2018. Ouh. Donc il n'y a pas que l'art qui l'intéresse.
Oui, je veux dire, c'est un art très particulier quand même. Hein.
Mais qui était assez, assez intéressant, voilà. Et alors pour les récompenses, donc il a été récompensé déjà en 82. Il a eu le Lion d'or à Venise pour l'état des choses. En 84, il a eu la Palme d'or et le prix du jury œcuménique déjà pour Paris, Texas. Oh. En 1987, la mise en scène à Cannes pour Les ailes du désir et l'ours d'argent à Berlin pour The Million Dollar Hotel en 2000. Il a reçu l'ours d'honneur à Berlin en 2015. L'Association japonaise des arts lui a décerné un prix Nobel en 2022. Et il a reçu le prix Lumière à Lyon en 2023 pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, donc le film Perfect Days a eu le prix du jury œcuménique, comme tu l'as dit, Alix. Et c'est un film, effectivement, sur un personnage, Hirayama, une bonne soixantaine, qui nettoie les toilettes publiques à Tokyo. Donc, ces rencontres quotidiennes vont nous faire découvrir un peu son passé, mais on n'en saura pas beaucoup, sauf quelque chose de plus sur sa vie et sa philosophie de vie au présent. Donc, je voulais juste parler du personnage principal, Hirayama, qui est joué par Koji Ayusho, non, Yaucho, pardon, qui a eu le prix d'interprétation d'interprétation masculine à Cannes aussi en 2023, et qui est un acteur japonais qui est né en 56, qui a beaucoup tourné pour la télévision, mais qu'on a vu nous en France. Il a un physique assez reconnaissable et effectivement on l'a vu en France. Il avait joué dans Babel de Alejandro González Iñárritu en 2006, il a joué dans L'Anguille de Imamura en 97 et dans un film de Kore-eda, The Third Murder. Donc c'est une figure qu'on connaissait et qu'on est heureux de retrouver avec les tempes grisonnantes. Et l'intérêt, c'est que ce film, c'est une commande. Hein. On l'a beaucoup entendu, on en a beaucoup parlé quand même sur les ondes. Mais c'était une commande au départ de la municipalité de Tokyo pour les toilettes publiques, faire des courts-métrages sur les toilettes publiques de Tokyo, qui avaient été construites par des architectes renommés et qui n'ont pas beaucoup servi, à l'international, parce que c'était prévu pour les Jeux Olympiques qui n'ont pas eu lieu en 2020 à cause d'une certaine pandémie, le coronavirus. Donc, plutôt que de faire des documentaires, Wenders a préféré en faire un film autour d'un personnage et il a eu comme co-scénariste un japonais, Takuma Takasaki, qui l'a beaucoup aidé pour la création de ce personnage.
Autrement dit, ce qu'on n'a pas vu à la télévision, on le voit au cinéma maintenant. Je parle des toilettes de Tokyo.
Voilà, à la télévision, je ne sais pas si on l'aurait vu. Oui, bien sûr. avec le...
On regarde surtout les athlètes, mais enfin...
Oui.
De temps en temps, ils y vont eux aussi, il n'y a pas de raison. Oui, alors, évidemment, on est loin de Paris-Texas, sauf que...
Oui.
Sauf que, faute de grands espaces, on a des toilettes. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des points communs entre les deux personnages. Le personnage de Paris-Texas et le personnage de ce film,
oui.
Le personnage de l'Occident. Parce qu'ils sont tous les deux, ils ont tous les deux un passé qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Et en même temps, ils sont mutiques. Enfin, est-ce qu'il y a pensé, est-ce qu'il n'y a pas pensé, j'en sais rien, mais il y a quand même ces deux points communs. Et puis, ce sont des gens quand même qui sont quand même plutôt optimistes, on va dire, dans la vie, surtout lui. Mais l'autre aussi, quand même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, au début, moi, j'ai eu l'impression, dans les premiers moments du film, de voir un film déjà qu'on a déjà vu, où toutes les choses se répètent pendant plusieurs jours à l'identique.
Oui. Ah là, c'est pas un film de science-fiction. Là.
Non, c'est pas un film de science-fiction. Mais là, effectivement, il y a tout un processus. Il a ses habitudes et il en change. Jamais, on a l'impression que c'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc, quand il se lève, qu'il range ses affaires, donc tout est impeccable là-dedans. Il n'y a pas d'animal, il n'y a rien du tout. On voit cette fenêtre et il descend. Et là, il lève la tête en l'air, il regarde les arbres, la nature, qu'on nous montre aussi en même temps pour savoir quand même ce que c'est. Et il est heureux.
Il sourit,
voilà.
Il y a quand même quelques petites différences. Dans le traitement, dans la mise en scène de Wenders, il y a des différences dans le quotidien répétitif des journées.
Ce n'est pas un jour sans fin.
Et c'est voilà. Ça, oui, mais c'est ça aussi qui le différencie d'un film statique, vraiment, où tout se répète et tout est toujours pareil. Et à chaque fois, là, on ne va pas le prendre quand il se rase, mais on va le prendre directement quand il sort, ou des petites choses comme ça. Puis ce qui change surtout, c'est quand même les rencontres avec la population et avec les personnes qui vont interagir avec lui. Hein, mais lui, en tout cas, oui. Ça... sa philosophie, c'est un peu entre l'épicurisme et le stoïcisme. Hein, il n'est pas misanthrope, ça c'est sûr, parce que justement il a ce sourire et il a cette bienveillance au départ quand il rencontre les gens. Il aime les gens,
on a l'impression que rien ne peut l'énerver, alors qu'effectivement dans ses rencontres il y a des choses qui pourraient...
Il y a de quoi, surtout dans son statut de nettoyeur de toilettes, il n'est pas toujours bien considéré. Au mieux, il est ignoré, mais bon,
oui,
c'est
ça.
Vrai qu'il s'en est fait une raison. Quoi.
Le plus souvent, c'est une silhouette, effectivement. Mais on sent qu'il a de l'empathie pour les gens, quels qu'ils soient. Et c'est ça qui en fait, donc, c'est à mon avis, la grande qualité de ce personnage, qui, ne, on ne l'a pas dit, mais il ne parle pratiquement jamais. Et quand il parle, vraiment, c'est le minimum. C'est souvent par oui ou par non. Des fois, même, il ne le dit même pas, puisqu'il le fait comprendre.
Geste la tête.
Ah, voilà. Alors, je ne sais pas si les Japonais sont un peu comme ça aussi. J'en connais pas. Ce qui est les scènes amusantes aussi, il faut en parler. Et ça commence avec son espèce d'assistant, ce jeune.
Oui,
donc,
son collègue.
Son collègue qui fait les toilettes avec lui et qui est infernal, quoi. Mais lui.
Insupportable.
Voilà. Mais lui, il le supporte.
Sacré collègue.
Oui. C'est ça, mais c'est les personnes qu'il rencontre interfèrent avec sa routine et ils ont toujours un impact sur. Mais parce qu'il est tellement sensible aussi qu'on voit tout de suite que ça le touche. Enfin, ouais. Il y a quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. Hein, mais n'empêche qu'il revient toujours à sa ligne de conduite grâce aux règles qu'il s'est fixées dans son quotidien. Hein, et c'est ça, en fait, c'est dans la manière que Wenders a de parler de cet homme, de montrer sa vie, qu'on voit tout l'art de la mise en scène. Hein, parce que dans ce qu'il aime, on l'a dit, dans sa vie simple, il a ses moments de plaisir en écoutant de la musique, en faisant de la photographie, en photographiant les arbres, en lisant. Et donc, il y a... D'abord, la musique qui est vraiment très importante parce qu'elle le suit dans sa journée. Et c'est surtout que la musique, dans la mise en scène, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un son direct. C'est-à-dire que c'est ça fait partie de l'action, c'est lié aux événements. Les personnages peuvent l'entendre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'il se déplace dans son petit véhicule qui contient tous ses produits d'entretien, ses balais, tous ces machins-là, effectivement, il a toute une rangée de cassettes audio et systématiquement, donc, il met des airs qu'on connaît certains. C'est pas forcément, c'est plutôt de la musique américaine.
Des années 60, 70. Ah, oui.
Voilà, des années 60, 70,
ouais.
Exactement.
Ouais, oui.
Le message finalement de ce type, c'est d'abord il y a un éloge de la beauté, je trouve, dans ce film, puisqu'il y a beaucoup de plans. Il va dans les parcs, il regarde les arbres, il regarde la nature, les oiseaux, les choses comme ça. Et aussi, il est quand même simple. C'est un peu l'éloge de la simplicité. C'est prendre les choses comme elles viennent. Finalement, donc c'est quelqu'un qui est j'allais dire un peu anormal par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, de ce qu'on voit à Tokyo, parce qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, il y a aussi des belles balades dans Tokyo qu'on découvre à travers...
Ah, très important,
à travers
oui. C'est même un personnage, la ville de Tokyo, on peut dire, avec les plans larges, les échangeurs. Et c'est aussi un contraste entre la modernité et le passé, parce que c'est des petites maisons en bois.
Le quartier dans lequel il vit, voilà.
Mais c'est aussi le thème central, pour moi, du film, c'est ça, c'est le passé, l'avenir, le présent surtout, qui est très important, mais justement le contraste avec le passé qu'il faut digérer et puis il faut se contenter des petits instants. C'est une leçon de bonheur en fait.
Voilà, profiter de la vie.
Vivre l'instant présent.
Oui.
Le message de Wenders.
C'est l'épicurien japonais, quoi.
C'est ça.
Ouais. Perfect Days, au pluriel d'ailleurs.
Oui. Perfect Days, alors que la chanson est au singulier, la chanson de Lou Reed.
Oui. C'est vrai. Et alors, la chanson de Lou Reed, j'ai eu quelque part, j'arrête là-dessus, on ne sait pas trop donc, si c'est un éloge de la drogue ou un éloge du bonheur de vivre.
Oh ben, c'est
le titre des chansons est le plus important. Je veux dire, c'est ça qui c'est aussi le rôle de dans l'ambiance du film, c'est que c'est aussi son ambiance à lui intérieure. Mmh. Donc le titre de la chanson Perfect Day, il l'écoute alors justement le jour parfait, où il est tout à fait bien et c'est un jour de congé. Et voilà, c'est juste un petit.
Voilà. Ce qui n'était pas forcément la même chose pour Laurie d'ailleurs.
Ah.
Mais bon,
non,
un autre problème.
Différents symboles en tout cas selon les interprétations, mais cool, Perfect Day. N'allez pas aux toilettes puisqu'on parlait de toilettes tout à l'heure avec avec ce personnage qui entretient les toilettes de Tokyo, puisqu'on va continuer sur un second film, juste le temps d'aimer. Ça s'appelle Le temps d'aimer, c'est pour ça. On va voir si vous aimez ou pas, mais en tout cas, on écoute la bande-annonce pour vous donner envie.
Daniel ! Merci beaucoup.
Il y a pas de quoi.
Je ne vais pas lui partir. Merci.
Sois sage.
Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous. Je ne me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Vous l'aimiez, le père de Daniel?
En fait, ça n'a pas duré longtemps.
Comment il va faire une part pour le retrouver si je change d'ami?
Daniel! Pourquoi tu fais ça?
Mon rêve, c'est travailler dans un dancing.
J'adore voir les gens danser, s'amuser.
Maman, je peux dire mon vœu?
Non, sinon il se réalisera pas.
Laisse tomber, tu
sais. Je te le dis quand même.
Il faut que tu parles à Daniel.
Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je sais que c'est toi, rends-la-moi.
Je sais que c'est lui, mon vœu!
Je t'en fous, c'est pas une femme que t'as épousée, c'est une couverture!
Moi, j'ai pas été ta couverture, moi!
Daniel, arrête-toi!
Quoi son nom?
Voilà donc pour la bonne annonce du film Le Temps d'aimer, qui est d'ailleurs au Diagonale en ce moment, si vous en écoutez en direct, ce 19 décembre. Oui. Et on n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que vous avez fait une soirée. Pour le
oui,
le
une soirée spéciale pour Perfect Days au Diagonal avec le débat après le film pour le jury œcuménique.
Ouais. Voilà, Chrétien et culture et profil. Ouais.
Ouais. Et donc le temps d'aimer, film de 2023, oui. Signé par une certaine Kate Kilavery, je le dis pas bien, je crois, mais tu sauras sûrement mieux.
C'est pourtant français.
C'est pourtant français.
Kate Kilavery, c'est breton, non? C'est pas breton.
Catel okay. Qui est verré.
Qui est verré.
Oui, je crois que Catel, c'est breton.
Ouais, oui,
oui,
je crois
oui,
que
oui,
c'est breton.
Oui.
Ouais.
Voilà.
Ouais, pourquoi tu veux angliciser tout prénom.
Elle est bretonne, effectivement. Ouais. Effectivement, ceci explique cela.
Ouais, c'est pour ça. Ouais, bah, moi, j'ai d'origine bretonne, du coup, je vois.
Très bonne prononciation de la part de toi, Claude.
Ça fait une semaine là, que je m'entraîne.
C'est pour ça.
Qui le verrait. Mais d'ailleurs, j'ai fait une photo.
On te laisse en parler, en tout cas, de ce film, Claude.
Alors, c'est une histoire vraie d'abord. Le point de départ du film,
c'est
une histoire vraie. C'est l'histoire de la grand-mère de Catel Kiévéré, qui pendant la guerre, donc 39-45, a fréquenté un soldat allemand, a eu un enfant et a été tondue à la Libération. C'est comme ça. Et d'ailleurs, les premières images du film qu'on voit, ce sont des images d'archives qu'on a déjà vues... un tas de fois, vous avez les soldats américains ou français qui sont sur des chars d'assaut ou sur des camions, qui font de la foule en liesse, et qui tout le monde s'embrasse, etc. Mais à la fin, on voit des femmes qui sont tondues. Voilà. Alors tout ça, de ces archives en noir et noir, en blanc et noir, pardon, on passe d'une manière très originale au film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit une femme qui rentre dans une maison toujours en noir et blanc. Une femme tondue, évidemment. Et une fois qu'elle est rentrée dans la maison, il y a l'écran qui était l'écran 4:3 traditionnel du cinéma, qui s'ouvre et la couleur apparaît. Voilà, on se dit, waouh, c'est bien ça, c'est nouveau. Et là, on arrive dans un restaurant qui est sur une plage en Bretagne. Et donc, la salle est pleine et on voit des serveuses qui s'agitent, qui passent entre les clients, qui prennent les plats, qui prennent les commandes. Et on remarque évidemment Anaïs de Moustier, qui est Madeleine, donc, qui est la grand-mère dans la vraie vie de Catel Kiévéré, qui sert à un moment donné un jeune homme qu'on a du mal à reconnaître parce que... il s'appelle Vincent Lacoste, mais on ne le connaissait pas. Et il faut savoir que pour ce film, il a perdu 10 kilos.
Ah ouais,
donc effectivement, ça change. Au premier abord, on ne le reconnaît pas. Voilà. Et c'est un coup de foudre entre les deux. Ils se retrouvent sur la plage, puis ils vont se retrouver par la suite. Et puis ils vont finir par se marier aux grandes dames des parents, parce qu'elle, c'est une petite serveuse de rien du tout. Mmh. Et lui, c'est quand même un fils de famille, fortuné, friqué, qui a fait des études, qui est cultivé, etc., etc. C'est le départ du film. Donc on est en 1947 et ce film va durer à peu près 20 ans, 25 ans avec évidemment des ellipses et on va voir tout l'intérêt de ce film, l'évolution de ce couple finalement qui s'est trouvé là par hasard, qui n'a rien de commun, qui va évoluer, qui va donc d'abord se marier, avoir un enfant. Donc on les voit jeunes au début, on les voit dans la quarantaine et après on les voit dans 55, 60 ans à peu près.
Alors l'enfant, elle l'a déjà. Hein,
mais elle va avoir un enfant avec cet homme.
Ah oui, elle fait
un deuxième enfant avec cet homme. Et l'intérêt du film, c'est ça, c'est la vie d'un couple. Est-ce qu'un couple qui a des secrets... Alors évidemment, tout ce qui suit le début, c'est de la fiction. C'est pas l'histoire de la grand-mère de A jusqu'à Z. Hein.
Oui, bien évidemment. Sûr, oui.
C'est de la fiction. Et on va voir... il faut pas trop dévoiler quand même les choses. Bon, mais c'est un couple... Chacun a ses secrets. Elle, on le connaît le départ. Et puis on sait le départ donc qu'elle a eu un enfant de ce soldat allemand. Mais lui, on va le découvrir petit à petit. Et on va voir que malgré ce, l'amour, on va dire... tient à peu de choses, et c'est pas forcément l'amour physique qui est la base du couple, en tout cas pas de celui-là, voilà.
Oui.
Bravo.
Alors si je peux revenir sur la première scène, parce qu'elle est quand même assez, assez marquante, hein, c'est que ces images d'actualité, où on voit les Américains qui débarquent en grand vainqueur,
hein. Libération,
D'un côté, France. Il y a les femmes qu'on embrasse, Et ça, ça m'a assez marqué. Hein, ces femmes qu'on embrasse et qui se laissent embrasser, mais enfin qui ne sont pas forcément là pour, finalement, pour être embrassées à pleine bouche. Hein.
Oui.
Et celles qu'on tombe. Et il y a tout d'un coup une évidence, on se dit, bon, déjà, la place de la femme, hein, c'était celle-là. Et ces images de femmes tendues, on en a vu, mais très peu. Et on passe souvent très rapidement sur ces images. Mais là, on insiste et on voit vraiment ces punitions en public qui deviennent des véritables tortures.
Hein. Absolument.
C'est insupportable. C'est les croix gammées, les gifles. Donc voilà, ce premier thème du film est évident. Et déjà, ça justifie amplement le film, hein, cette histoire, l'histoire de sa grand-mère justement. Comment une femme peut s'en sortir après un tel traumatisme? Et comment va-t-elle pouvoir aimer un enfant qui est né de cette histoire avec l'ennemi? Et là, c'est ça qui est bien, c'est qu'on va de surprise en surprise, c'est que finalement, non, c'est pas que ça. Hein, l'autre thème, c'est l'histoire de ce couple, voilà, au long cours, hein, dans toute la vie. Et même si leur amour apparaît comme une évidence au départ, on voit vite les secrets, comme tu dis, la honte qu'ils cachent tous les deux, et c'est ça qui en fait quelque chose de beaucoup plus important. En tout cas, un film, je trouve, assez complet sur l'amour et sur le couple.
Oui, parce que c'est quand même, c'est elle, on le comprend dès le départ, qui est le personnage principal de ce film, donc c'est la femme, c'est un film donc doublement féministe, si je puis dire, puisque c'est... Oui. On est à la fois dans l'histoire et dans la réalité, dans le vrai. Enfin, il y a les problèmes qui posent, ce sont des problèmes qui se posent également aujourd'hui. Il y a un sous-thème, c'est aussi le non-amour maternel de cet enfant, donc qui est né ce couple franco-allemand, sans parler du reste, dans ce contexte quand même bien particulier, et qui donc a lui aussi un traumatisme, forcément. Et pendant tout le film, donc ça va être un peu de temps en temps des scènes avec ce fils qui est adopté évidemment par le père, le personnage de François, que joue Vincent Lacoste. C'est pas un problème relationnel de père parâtre, je sais pas si le mot existe, mais c'est donc tout ce qui a marqué, tout ce qu'il a vécu pendant qu'il était enfant.
Oui, la relation
avec le père était toujours
se déroule assez normalement.
Voilà, évidemment, il est rejeté par ça, la belle famille, la fausse belle famille, si je puis dire. Il y a une chose qui m'a marqué aussi dans ce film, donc qui est un mélodrame, hein, il faut appeler les choses par leur nom, et c'est sa construction. C'est-à-dire qu'en général, les mélos, ils finissent bien. Hein, oui, c'est le happy end. Là, le happy end, il est tout à fait au début. Le PN, c'est la rencontre, hein, c'est la rencontre du début sur la plage de cette machine.
Oui, c'est quand ils tombent amoureux l'un de l'autre. Oui, c'est vrai que c'est une belle.
Bon, moi j'ai eu la chance de la rencontrer Katel Kiveré quand elle est venue le présenter en avant-première au Cinémed.
Ah, oui.
Et elle nous racontait, donc c'est pas par hasard qu'elle fait des films comme ça, parce que tous ces films précédents, que ce soit Suzanne, Réparer les vivants.
Ah, c'est elle qui... Ok, d'accord.
Voilà. Et okay. Bon, elle a une passion pour Douglas Sirk. Douglas Sirk, donc c'est ce réalisateur américain qui a fait beaucoup de films dans les années 50, et qui sont tous des gros mélos qui font pleurer, pas que la veuve et l'orphelin. Hein, c'était vraiment...
C'était dur, Réparer les vivants.
Oh, ouais. Donc c'est
ça. Suzanne.
Il y a un film qui a un titre qui fait penser au temps d'aimer,
Alors oui,
nous sommes tentés.
J'ai oublié de le dire, c'est le temps d'aimer, le temps de mourir.
Voilà, c'est ça, voilà, le temps d'aimer, le temps de mourir.
Voilà. Voilà. Film,
Donc si ça s'appelle le temps d'aimer, effectivement, c'est pas par hasard, ça vient de Douglas Sirk. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin.
Okay. C'est bien ça. C'est
bon, ouais, dans le titre, le rappel.
Voilà.
C'est fort.
Mais ce qui est beau dans leur relation, quand même, tout le long, hein, parce que bon, c'est un mélo, mais pour moi, c'était pas vraiment un mélo. Enfin, je sais pas, c'était.
Alors, c'est
pas très classique.
Il faut que tu te mettes d'accord avec toi-même, mais c'est un mélo ou c'est pas un mélo?
Ben, c'est pas très classique. Il y a un mélo très moderne, alors peut-être, ouais. Je sais pas. Parce que tout le long, on sent qu'ils se soutiennent mutuellement. Hein. Ils ont des problèmes relationnels, c'est sûr. Mais quand il y en a un des deux qui est attaqué ou en danger, ils font bloc et ils se redisent qu'ils s'aiment. Donc en fait, ils s'aiment tout le long du film jusqu'à la fin.
Malgré tout,
toutes les différences et tous les problèmes qui se rencontrent dans la vie, quoi.
Et alors moi, je l'avais proposé une formule. C'est un film ancien tourné avec des moyens modernes. Des moyens d'aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec la formule ?
Oui. Oui, c'est tout. C'est la mise en scène est moderne, voilà. C'est ça. Ouais.
Donc on le retient pour la prochaine fois.
On le retient pour la prochaine fois, voilà. Effectivement.
Il y aura une interro écrite. Vous avez intérêt à réviser et à prendre des notes. Hein.
Attention.
Voilà. Moi, j'aime bien aussi, c'est vrai, ce que tu as dit sur les enfants. Parce que ça, là aussi, c'est une continuation, en fait. Hein, c'est leur amour tout le long, mais c'est aussi une continuation avec les enfants. Ce qu'ils ont retenu, consciemment ou inconsciemment, de cette éducation avec ses parents un peu hors normes. Quoi, voilà.
Voilà, donc pour le temps des mélo ou pas mélo, faites le débat. Mais allez voir surtout le film qui est encore au Diagonale en ce 19 décembre. Oui. Ça vaut le coup.
Un film important.
Un film issu d'une histoire vraie, alors comme on le disait.
Une histoire vraie, oui.
Ouais. Ce qui va vraiment arriver, c'est Les filles vont bien. Fromont aussi dans quelques instants. Mais avant ça.
Mais auparavant, il y a la pause musicale.
La pause musicale de notre cher Claude. À chaque fois, il nous régale avec une référence particulière, un son que l'on découvre ensemble.
I'm dreaming of a white Christmas. The treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas.
Oh, que c'est beau. J'ai l'impression d'être à Noël sous le
sapin. Oui, ça fait un peu Noël déjà.
Mais ça ne va pas tarder.
Mm-hmm. Est-ce qu'on est censé deviner, Claude, alors?
Non, moi j'ai deviné déjà, je trouvais.
Ariel, peut-être une idée de ce que vous écoutez.
Je sais pas, il y a un rapport avec Douglas Sirk ou pas, non?
Non.
Pas du tout.
Mais bon. Ça pourrait.
Okay. C'est l'époque.
C'est Sinatra.
Presque.
Ah, c'est dans un peu la même...
Parce que c'est Noël, donc.
Alix, une idée peut-être d'un artiste, d'un titre.
J'ai peur de dire des bêtises.
Alors, c'est pas sa génération, c'est pas la mienne non plus d'ailleurs.
Non, c'est pour ça.
Alors, donc c'est une chanson qui s'appelle White Christmas.
Ah.
Et c'était interprété par Bing Crosby.
Ah,
Bing Crosby, okay. Qui était à l'époque, donc, quand je dis à l'époque. C'était dans les années 40, 50, 60, parce qu'il a eu une très longue carrière. C'était le crooner numéro 1. Après, il y a eu Sinatra, évidemment. Ils ont été même en concurrence pendant quelques temps. Mais c'est lui qui est mort le premier. Alors, cette chanson donc a eu un créateur qui s'appelle Irving Berlin, comme la ville. Mmh. Et ça a été créé donc justement par Bing Crosby sur NBC pour le Noël 1941. Et c'était important, ça a beaucoup marqué les Américains, cette chanson. Bon, parce que on peut la trouver, elle est au moche, voilà. Mais le 7 décembre 1941, il s'est passé quelque chose de très important. Il s'est passé quelque chose de très important aux États-Unis.
Quelque chose d'important.
C'est Pearl Harbor.
Ah.
Je savais si ça vous dit quelque chose.
Oui.
Autrement dit, l'entrée en guerre,
l'entrée en guerre.
Destruction de la flotte américaine et l'entrée en guerre des États-Unis.
Ah, oui.
Et c'est une chanson donc, qui repasse régulièrement depuis pour les Noëls, de moins en moins, parce que les jeunes ne connaissent pas trop.
Oui.
Mais quand même, alors, comme je le disais tout à l'heure en cabine, tout le monde l'a enregistré, tout le monde l'a chanté. Évidemment, il y a Sinatra, Tony Bennett, autre crooner. Elvis Presley, Barbara Streisand, je vous dis pas, il y a une liste de 5 ou 6 lignes avec tous ces gens-là. Et en France, quand même, il y a eu une adaptation. Nous avons eu Tino Rossi, Jean Sablon, Jacqueline François, André Claveau, Dalida.
Ah.
Ce sont des gens que vous ne connaissez certainement pas.
Si,
oh, si. C'est Dalida.
Ah bon? Ah, quand même, oui. Alors après, il y a Céline Dion, oui. Eddie Mitchell,
oui,
Christophe, tatati, tatata.
On connaît la chanson.
Ça, c'est des grands noms.
Pas mal. Et c'est une chanson donc, qu'on peut entendre dans un certain nombre de 4 ou 5 films également que je n'ai pas retenu parce que c'est des films minables, je pense.
Voilà. Mais la liste de grands noms, de grands artistes, de grands interprètes.
Yes.
Et reprenons la liste de nos films dans cette dernière émission Cinécodone de l'année 2023, en ce mardi 19 décembre. Mmh. Toujours avec Ariel, Claude, Alix, pour l'association Profil. Qu'est-ce qu'on avait dans notre liste Perfect Day? Tout à l'heure, Le Temps d'aimer, tout à l'heure, Les filles vont bien. Et là...
Fremont. Alors, c'est un film de Babak Jalali, qui est un réalisateur états-unien, qui est sorti en décembre 2023.
Oh, ça fait débat.
Iranien.
Ah bon? Oula. Ok, bon, désolé, navré. Je vous laisse présenter le film.
Bon, voilà. Petite bonne annonce, peut-être?
Petite bonne annonce. Ça fait bonne annonce.
Pour ça, en profiter, c'est la bonne annonce, c'est là.
Ah ouais, okay.
About the situation in Afghanistan before you left to come here.
Yes, I was a translator in Afghanistan. I'm here to ask for something to help me sleep.
We could go on a blind double date?
No, I think I would hate a blind date.
We are looking for someone else to replace her. Wouldn't you be interested? Important messages. It shouldn't be too original. They shouldn't be too obvious.
به من نگو که از وقت به ساس تنهایی نمی کنی.
البته که می کنم.
چرا شوهر خوبی برای خود پیدا نمی کنی؟
I'm not meeting anybody.
You don't need anybody. You need someone special.
Next time you answer like a fortune cookie, I'll eat you.
I don't spend much time thinking.
Why?
Too busy with my social life. Thank you.
Vous avez entendu la bande-annonce de Fremont, comme dirait Rija. Et d'ailleurs, c'est pas du tout le réalisateur n'est pas du tout états-unien, mais iranien. C'est le film qui se passe à San Francisco.
On voyage.
Et oui, on voyage. On voyage depuis FM+, depuis la radio. Donc, du coup, je vous laisse vous présenter le ce film.
Donc c'est oui, c'est moi qui vais déjà vous parler du réalisateur Babak Jalali, qui est effectivement anglais, d'origine iranienne, mais qui tourne aux États-Unis. Il est né en 78 et il a été formé à la London Film School. C'est un réalisateur, scénariste et producteur. Et Fremont est son quatrième long métrage. Le deuxième, qui avait pour titre L'Inde, était aussi tourné aux États-Unis et avait pour sujet la communauté amérindienne, une communauté amérindienne aux États-Unis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe ailleurs que dans sa cour, on dira. Donc il est sorti en 2018, le deuxième, et Fremont est donc son quatrième, et a eu le prix du jury au festival de Deauville. Donc c'est un représentant du cinéma indépendant américain, bien qu'il soit anglais, d'origine iranienne. Donc, et il a pour co-scénariste d'ailleurs Carolina Cavalli, qui est italienne. Voilà, donc c'est
bon métissage.
International.
C'est très bien ça.
Donc Fremont, c'est une ville moyenne, c'est plus petit que Montpellier, je suis allé regarder, en Californie, près de San Francisco.
Tout de suite, c'est désagréable.
Mais non, on compare, c'est bien, ça donne une idée.
Donc c'est l'histoire de Donia, qui est une jeune réfugiée afghane, qui était traductrice pour l'armée américaine, et donc qui a eu évidemment la possibilité de fuir les talibans. Et qui vit dans une résidence motel, enfin c'est un peu glauque, où est logée la communauté afghane, parce que c'est une ville réellement, Fremont, où il y a une grande communauté afghane. Elle travaille dans une fabrique de Fortune Cookies, ce sont les biscuits chinois, avec des messages porte-bonheur. Donc elle est intégrée dans cette société asiatique, aux États-Unis, encore une partie...
La diaspora.
Voilà, des diasporas, oui, exactement. Elle veut terriblement un rendez-vous chez le psychiatre parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Elle veut des cachets et elle obtient un rendez-vous un peu en douce. Et elle se retrouve avec un psychiatre. Sa seule amie, c'est sa collègue, Johanna, qui lui conseille, elle, de chercher un petit ami. Elle-même le fait avec des blind dates, ce qu'on appelle, je ne sais pas comment ça marche exactement, mais bon.
On se rend compte, on se connaît quand on se rencontre.
Voilà, oui. Bon, je ne sais pas, une application sur le téléphone.
On rencontre à l'aveugle, ça.
C'est Tinder.
Blind date, oui, c'est ça, à l'aveugle.
C'est ça, oui. Comme une dégustation à l'aveugle.
Et donc, blind, c'est aveugle.
Mais un rendez-vous amoureux.
Voilà.
Et donc, quand son patron de la fabrique de cookies lui demande d'écrire elle-même des messages pour les mettre à l'intérieur des biscuits, elle décide de donner un coup de main de pouce au destin. Donc là aussi, peut-être on n'en dira pas beaucoup plus pour ne pas déflorer l'histoire...
Suspense.
Qu'est-ce que tu en penses, Claude ? Il ne faut pas le dire. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ?
Il faut dire ce que tu viens de dire, c'est très bien. Ce qu'on peut dire, c'est son caractère à elle. Déjà, elle est complètement...
on revient sur elle.
Voilà, on sent qu'elle a vécu un traumatisme, parce qu'effectivement, elle est partie de Kaboul avec les Américains, donc vite, ses parents n'ont pas pu venir. Donc elle est là-bas, sa famille, ses amis qui sont restés là-bas. Elle est plutôt charmante, mais on sent qu'elle est solitaire, qu'elle a quelque chose qui la tracasse. C'est pas seulement le manque de sommeil. Mais elle a des relations donc qui sont dans cet immeuble que tu viens de décrire, qui sont avec certains qui sont haïssables, avec d'autres elle est gentille, adorable, normale, on va dire tout simplement. Et donc le film se passe entre ce petit, on peut pas parler d'usine, c'est une espèce d'atelier, cette fabrique de cookies. Ils sont une dizaine.
C'est une usine, il y a de grosses machines quand même.
Oui, il y a de grosses machines, il y a pas grand monde qui travaillent, donc je sais pas s'ils sont une quinzaine, c'est un maximum. Il y a ses patrons d'origine asiatique, donc lui est charmant, adorable, sa femme est haïssable. Mmh. Elle a une amie, donc européenne, américaine, donc d'origine
Johanna.
Johanna, qui est un peu sa confidente. Donc ça se passe là-dedans, dans le l'immeuble, dans l'usine, et ça se passe surtout chez le psychiatre,
chez le
psychothérapeute, je sais pas comment on peut appeler ça. Et c'est là finalement qu'elle commence à s'épanouir, malgré un premier contact sans trop dévoiler l'histoire, donc qui est quand même assez tendu. Et c'est petit à petit, donc c'est un peu comme une rencontre amoureuse, mais au niveau de l'amitié, mais ce sont des êtres qui vont se rapprocher, parce que lui va dépasser son côté médical, puisqu'à un moment donné, il va même lui soumettre des propositions pour ses lettres. Mmh.
Pour ses phrases.
Ses phrases, oui.
Il se prend au jeu, en fait.
Voilà, il se prend au jeu. Ouais. Et puis, il y a un troisième intervenant, ou un quatrième intervenant qui est important aussi, c'est ce vieil Afghan, donc, qui a un petit restaurant où elle est toujours seule, on a l'impression que c'est la seule cliente. Et lui, c'est un peu un père de substitution, il me semble, parce qu'il lui donne des conseils, il discute avec elle. Voilà,
il veut l'initier aux séries télé.
Voilà. Et tout le monde lui dit que le point commun entre tous ces gens-là, c'est qu'il faut te marier. Voilà. Ah. Ne reste pas seul. Marie-toi, trouve-toi quelqu'un. D'où le blind date, donc, qui est suggéré à un moment donné.
Mais ce psychiatre, oui, moi, c'est lui qui m'a quand même assez fait rire. Hein. Il est cocasse, quoi. C'est vrai, il a un côté distingué et froid au début. En fait, on comprend qu'il est vraiment spécialisé dans l'aide aux réfugiés afghans. Et il se prend au jeu, effectivement, des petites phrases. Donc, on sent qu'il a autant envie de parler de lui qu'il a envie d'écouter l'histoire des autres. Et ça lui donne un côté assez assez charmant, quoi. Il a des petits tics de visage. Il y a quelque chose de très très humoristique dans son personnage, voilà. Et puis il se focalise surtout sur l'histoire de Cro-Blanc, qui est pour lui il fait un parallèle entre Cro-Blanc et ce chien. Et Lou, qui est en fait le premier immigré. Enfin, il y a des choses très drôles où on utilise des poncifs un peu américains pour en faire quelque chose qui vient se calquer sur la vie de cette jeune femme qui cherche juste un peu à oublier et à vivre sa vie.
Oui, non, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un noir et blanc format 4:3, comme les films à l'ancienne aussi, et que c'est filmé avec beaucoup de plans fixes. Il y a très peu de dialogue. C'est un peu comme notre japonais du film précédent. Hein. C'est des phrases très courtes, des fois des oui et des non. Et on peut dire qu'il se passe vraiment pas grand-chose dans ce film. Hein. Si je veux dire, si on prend le scénario, il tient en deux ou trois phrases. Hein. Mais
oui, c'est aussi. Mais il y a quand même trois parties, une évolution. Et puis enfin moi, ça m'a tout de suite fait penser au film de Jim Jarmusch, enfin les premiers en noir et blanc. Hein, et justement, cet humour un peu décalé, un peu triste. Mais enfin, c'est vraiment un très très beau noir et blanc. Hein,
Mais c'est aussi un peu l'ambiance des films de Coris Maki.
Pas en couleur. D'ailleurs. Pas en couleur.
Sans la couleur voyante, évidemment. Mais avec ces personnages un peu qui sortent quand même de l'ordinaire.
Ils sont dans l'ordinaire, mais qui sortent de l'ordinaire, je trouve.
Oui. Oui. En tout cas, c'était aussi la volonté de faire un personnage un peu atypique, justement, pas la pauvre immigrée qui aura plein de problèmes et qui va jamais s'en sortir, mais une femme quand même. Elle ne parle pas, elle dit qu'elle va bien, qu'elle a pas de problème de culpabilité,
elle est forte.
Elle veut pas penser, mais on sent quand même toute sa figure.
C'est aussi la volonté de déconstruire un mythe aussi de.
Oui, mais c'est pour
les stéréotypes qu'on a sur
pour le réalisateur.
Mais
pour dire qu'il
est un autre regard sur.
C'est possible aussi de s'en sortir. Il y a une fin donc très ouverte pour
conclure, c'est vrai, parce qu'il nous reste peut-être.
C'est vrai.
Il nous reste encore un film. C'est vrai.
On s'en dépêche. Hein.
Ouais. Donc voilà, c'est un film sur les possibilités. Et c'est une actrice qui n'est pas actrice d'ailleurs, qui est journaliste. Ah, mais je pense qu'on va la revoir.
Moi, pour terminer, je dirais une phrase que je vous laisse méditer. C'est que au port, les bateaux sont à l'abri, mais ils n'ont pas été construits pour ça.
Ah, c'est une des phrases.
C'est une des phrases du psy.
Du psy que le psy a trouvé.
Ça, c'est pas une phrase bateau.
Ça marche pour les... Ouais. Ça marche pour les trains aussi.
Ça marche pour les trains aussi. Il suffit de ne pas rater son train, quoi. C'est la vie qui file à toute vitesse. Et l'heure aussi passe à toute vitesse dans cette dernière émission de l'année. Comme on le disait sur Cinequanon avec votre émission par l'association Profil. Tout va bien malgré tout, hein, je vous rassure. Autant que les filles.
Oh,
les
j'en étais sûre déjà.
Bien. Bien amené, Rija.
Comme un cheveu sur la soupe.
Dernière bande annonce, et on en parle juste après sur FM+. A tout de suite. Yeah.
Bonjour.
Hola.
Hola.
Et la chica, ¿está bien?
Como tocarme las tetas.
¿Cuánto tiempo llevo aquí?
Tres.
Vale, vamos a retomar, perdona.
La idea es ensayar por las mañanas.
¡Vamos, para aquí!
Tiempo libre por las tardes. Y me han dicho que el fin de hay fiestas en el pueblo.
Sí, ¿eh?
¿Y entonces por qué saliste tú?
Por curiosidad, por deseo.
Por rebeldía. Pensaba que no sentías nada.
¿A ti también te pasa?
No.
Sí.
No.
Sí.
No.
Sí.
Sí. Hay cosas que no se pueden actuar, ¿no? ¿Cómo se interpreta un enamoramiento si no lo has vivido?
Es como... No sé, como que cuando tiras un hijo es como si tiras un pacto con la vida, ¿no? Como que no te puedes morir.
Cuando entras en un escenario, tienes que ubicar dónde está tu casa para que sepas que siempre podrías volver a casa. O sea, por ejemplo, aquí sería norte, sur... Mi casa estaría allí.
Señora Alex, les filles vont bien, c'est bien ça. Les filles vont bien.
Las chicas están bien.
Están bien.
Están bien.
The girls are right. Comédie dramatique, j'ai l'impression, mon cher Claude.
Waouh.
Si on peut dire comédie dramatique, je ne sais pas.
Les filles vont bien, effectivement. J'espère que vous aussi. C'est le premier film d'une actrice espagnole qui s'appelle Itsaso Arana.
J'aime trop cette actrice.
Voilà, et cette actrice qu'on a vue dans quelques films, cette comédienne qu'on a vue dans quelques films, c'est la compagne de Jonas Trueba. Donc elle est dans les trois films qu'on peut voir qui s'appellent Venez voir, Eva Anout et La Reconquête. Donc c'est la principale héroïne donc, de ces films de son compagnon. Alors, elle a 38 ans. Itsaso Arana. Mmh. Elle a écrit aussi le scénario de ce film. Elle a fait l'Académie Royale Supérieure d'Art Dramatique de Madrid. Mmh. Ensuite, en 2004, elle a créé sa propre troupe de théâtre. Et elle continue donc à faire les deux, mais quand même, elle fait aussi de la télévision. Enfin, elle fait un peu de tout. Et ça marche très bien. Donc, avec Jonas également, je vous remercie. Ce film donc, a eu le prix spécial du festival de Carlo Vivari en 2023. Et alors, ça se passe sur 7 jours. On est à la campagne, dans la campagne espagnole, on ne sait pas trop exactement où. 5 jeunes comédiennes débarquent dans une maison qui est complètement isolée. Oui, Mercedes, donc la propriétaire, avec sa petite fille, qui vont quand même un peu interférer dans ce film, qui pour moi est un petit bijou. Alors, elle vient de répéter une pièce de théâtre qu'a écrite Itsaso. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le début du film, la présentation donc des actrices se fait les unes après les autres, donc en plan taille. Elles se présentent, je suis Machine, et elles ont le même prénom dans la vie que dans le film. C'est quand même pratique.
C'est rigolo, ça.
Ce qui est quand même pratique pour s'y retrouver. Voilà.
C'est vrai.
Donc, elles viennent répéter cette pièce, donc, qui est une pièce en habit, et elles passent d'ailleurs les trois quarts du film, donc avec ces belles robes à crinoline. Et tout au long de ce film, finalement, on va de surprise en surprise, on passe du quotidien. Donc, elles se lèvent, elles prennent le petit déjeuner, leur déjeuner. Entre-temps, elle répète le plus souvent dans une grange qui est à côté de la maison, ou au bord d'une rivière, ou dans les champs, ou dans un bois. Et voilà, c'est gai, c'est très agréable. Le cadre est filmé donc un peu, on dirait, à la façon d'un Watteau, par exemple, si on veut chercher un peintre de l'époque, ça y fait penser. Et pour les dialogues, ben évidemment... on est quand même dans le romantique. Alors on peut penser à Homère aussi également. Et tout ça, ça se passe donc dans la joie, le rire. Il y a une scène dans la fête du village, donc qui est tout proche, mais qui est quand même assez éloignée. Et c'est peut-être un conte finalement. On ne sait pas trop comment le classer. Enfin, je ne sais pas trop comment le classer. Elles sont toutes jeunes et jolies. Et voilà, c'est pas un grand film, mais c'est un film qu'on regarde vraiment avec plaisir et on sort joyeux et heureux à la fois.
Tout est dans le titre, en fait.
Tout est dans le titre.
Tout le monde va bien, du coup.
Voilà.
Et c'est vraiment une histoire de fille. D'ailleurs, je sais pas toi, mais moi, dans la salle de cinéma, il y avait un seul homme. C'était que des femmes. Oh.
Non, je n'ai pas regardé.
Où êtes-vous ?
Ben non.
Comme dans le film d'Agnès Varda, là, l'une chante, l'autre pas.
Voilà.
Des femmes aussi. Ouais.
Donc c'est vraiment sous forme de conte bienveillant, moi, je trouve. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, il y a aussi, avant le générique, l'image de la toile de Jouy,
oui.
qui représente des scènes champêtres, hein, où on pénètre dans un lieu à la fois fermé et bucolique, hein, comme dans cette maison. Et chaque pause entre les petits chapitres, enfin, oui. Il y a une image de cette toile de Jouy avec une scène différente. Donc c'est vraiment le but de nous faire de montrer que il y a des comme dans les contes, il y a des chapitres, mais là l'originalité, c'est que c'est vraiment mêlé avec la réalité. Hein, c'est vraiment un miroir. Ouais.
Ce qu'il y a aussi, c'est que comme dans les contes, on peut les considérer comme des princesses. À un moment donné, on voit un crapaud.
En basket.
Oui, en basket, mais quand même. Des princesses modernes, on va dire. Il y a un crapaud aussi qui passe par là à un moment donné. Et à la fin, il y a un prince charmant aussi.
Oh. Oui.
C'est trop bien.
On n'en dira pas plus.
Non, une princesse charmante, ok. Mmh. Dommage.
Le crapaud et la princesse.
Et bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça parle beaucoup. Alors, voilà. Contrairement à Perfect Days et à Fremont, là, ça parle. Mais alors, bon, c'est aussi le débit espagnol. Mais d'ailleurs, elles le disent au départ, c'est un lieu où on va tout se dire. Et donc, elles parlent de tout, en fait, hein, de l'art, mais aussi d'elles-mêmes. Et ce qu'elles vivent elles-mêmes, leur vie, va inspirer l'art que la...
Peut-être aussi, c'est un reflet d'un sentiment vécu aussi, de se dire qu'il se passe des choses dans le cadre de résidence, etc., et qu'elle a voulu mettre en...
Mais c'est ça.
Capturé aussi. Oui.
Donc je crois que c'est vraiment
c'est tiré
très
personnel, quoi.
Oui, de cette comment on dit Isatsa. Son prénom, j'arrive pas à le dire.
Itsaso.
Voilà. C'est un film très personnel et c'est vraiment, je pense que c'est sa vie aussi. Ouais.
Tout est dit. Tu le disais, elle se dit de tout.
Tout est dit. T'as besoin de rebondir sur ta blague
Vous avez bien compris la blague ou pas ? Est-ce que je peux le répéter si jamais ?
Oui, non, mais c'est vrai. Tous les grands thèmes de la vie passent pendant de longs plans séquences.
Alors, il y a les filles. Mais il y a aussi la petite fille dont tu as parlé. Voilà. La petite Julia qui est importante justement dans le conte. C'est que c'est elle qui les accueille et on dirait que c'est elle qui a les clés pour ouvrir la porte au départ. Hein. Et c'est elle qui raconte la véritable histoire de la princesse au petit pois,
voilà.
D'ailleurs. Et c'est elle qui trouve le crapaud. Donc c'est elle qui a la connaissance, hein, la clé réelle de ce conte.
Ah ben, on vous souhaite de vivre un conte de fées, vous aussi, chers auditeurs, chers auditrices. Mais allez voir surtout ce film et allez vous faire un avis maintenant qu'on vous a donné envie d'y aller. Et vous verrez que les filles vont bien. Oui. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, aussi. Ariel. Merci Alix.
Yes, merci tout le monde. Oui, merci déjà.
Merci Adrien Technique. Oui. On peut vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.
Oui. Il est là. Hein.
Profitez à Noël, mangez beaucoup. Non, on se retrouve pas trop. Coussi coussa. Si vous allez faire
au cinéma, il y a de très beaux films.
Allez au cinéma, surtout. On rappelle, hein, Cinéconum, Association Profil. On se retrouve le 23 janvier avec...
Oui,
Alex.
Avec moi.
Avec Ariel, avec Claude, évidemment.
Richard et, aussi un petit
et
peu.
Vous.
Ou...
Je passerai comme ça à faire des grimaces, puis rentrer dans le studio de temps en temps. Je ne pourrais pas m'empêcher.
Est-ce que ce sera Alex au Pays des Merveilles?
Et pourquoi pas?
Non.
Mais puisque c'est avec vous, oui.
Peut-être.
C'est une merveille. Très bonne journée à vous sur FM+, sur le 91.0 et à très bientôt.
À très bientôt.
Ciao, à bientôt. Ciao.